c'est l'heure des communications.
Et comme à tous les mardis, 15h35, on va aller parler avec notre analyste politique. Elle est également fondatrice de Média Relations, chroniqueuse, Journal de Québec, Journal de Montréal. Marie-Ève Doyon, bonjour.
Bonjour.
Plus qu'une semaine, c'est presque déjà terminé cette campagne électorale-là. Et je pense que pour plusieurs, il y en a qui ont hâte que ça se termine.
C'est ce que j'allais dire. Plus qu'une semaine pour certains, c'est « il nous reste seulement une semaine », pour d'autres, c'est « il nous reste enfin seulement une semaine
». Oui, exactement. On le voit. D'ailleurs, faisons le tour un peu là, jusqu'à présent, parce que ce sera la dernière fois qu'on peut se parler avant l'élection du 3 octobre prochain. Faisons le tour un peu là, de chaque parti chef. Là. Comment ça a été au niveau de cette campagne électorale-là? Commençons tout d'abord, parce que tu en as fait un papier ce matin, concernant la campagne électorale d'Éric Duhaime.
Éric Duhaime, qui, en tout cas, c'est une opinion personnelle, mm-hmm. évidemment, moi je suis chroniqueur, je suis pas journaliste, mais l'opinion que j'en tire de cette campagne, c'est qu'Éric Duhaime a peut-être été décevant quand est venu le temps de faire les débats. On en parlait auparavant dans nos chroniques, on pensait que parce qu'il était habile communicateur, qu'il maîtrisait le médium, entre autres de la radio, que dans les débats, il serait redoutable. On l'avait déjà vu sur le plateau, entre autres, de Tout le monde en parle, où il avait fait une bonne performance, avait semblé plus nuancé que ce à quoi on s'attendait. Puis moi, j'avais l'impression au début de la campagne qu'il pourrait être, entre guillemets, là, pour ses adversaires, dangereux en ce fait qu'il arriverait à bien communiquer son mm-hmm. parti, à lui donner une apparence de nuance. Or, quand on regarde son dernier passage à Tout le monde en parle en fin de semaine et sa performance dans les deux débats, M. Duhaime a plutôt eu l'air du monsieur fâché qui parle au nom des fâchés puis qui demande à tout le monde fâché de continuer d'être fâché. Et ça, ben, ça n'est pas porteur d'un projet de société. Quand on fait une campagne électorale, on peut pas juste être contre. Il faut être pour des choses. Il faut présenter un projet. Juste de dire, nous, on est pour le privé en santé, mais jamais dire comment ça va se déployer, qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice aux citoyens, combien ça va coûter. C'est pas une option politique qui est nécessairement crédible. Le dernier choix de M. Duhaime a été de jouer un petit peu la carte de la victime en demandant et en insistant fortement auprès du premier ministre pour qu'il s'excuse de l'avoir comparé à l'ancien président Trump. Là, ben évidemment, ce que ça a donné comme résultat, c'est qu'il y a eu l'air d'un monsieur qui se positionnait en victime alors qu'il y avait une tribune extraordinaire pour présenter des projets, proposer une alternative, puis il n'a pas réussi à le faire. Mon impression, c'est qu'il a engrangé le maximum des votes qu'il pourrait avoir au moment où il a vendu ses cartes de membres, au moment où il y avait la pandémie, et que maintenant, ben son maximum est atteint, il ne reste plus qu'à, pour lui, essayer de le mettre dans les boîtes.
Et effectivement, là, on l'a vu, là, moi aussi, là, je te dirais, quand il s'est mis à jouer à la victime, j'étais plus « wow, attends un peu, là, on est-tu vraiment rendu là? T'as une belle tribune, c'est peut-être pas l'idéal. » Maintenant, parlons des libéraux. On a vu Dominique Anglade également qui a parti une campagne électorale d'une autre façon qu'elle le termine dans les dernières semaines. On a vu que ça a joué un peu également au niveau des sondages.
Dure campagne électorale pour les libéraux. Je pense que tout le monde a de la compassion pour Mme Anglade parce qu'elle garde le sourire. Elle continue de se battre, d'avoir une attitude bon enfant, bonne joueuse. Son arrivée à l'Assemblée nationale comme chef du Parti libéral avait aussi changé le ton. On se souviendra que après les années d'opposition libérale, on trouvait que c'était hargneux un peu et Mme Anglade a toujours choisi une attitude constructive. La campagne électorale n'est malheureusement pas son meilleur moment comme chef, d'où d'abord pour commencer en voulant se ramener sur l'économie et faisant une erreur de 16 milliards dans une plateforme économique. Je pense que ça c'est un peu impardonnable de la part des libéraux. Immense, puis explicable, mais difficilement pardonnable. Ensuite de ça, Mme Anglade, seule femme, a toujours été au-dessus de la mêlée, mais n'a pas réussi à se faire connaître des citoyens autant qu'elle réussit à le faire quand elle va directement auprès des gens. C'est une femme super chaleureuse qui, à premier abord, là, on la voit à la télé, on se dit « Ah, OK », mais quand on la rencontre, c'est une femme avec qui le contact passe bien, simple, agréable à côtoyer pour ceux qui l'ont fait. Par contre, ben là, dans les débats, elle nous a beaucoup beaucoup parlé de sa famille. Tu sais, il y a un objectif, hein, à se faire connaître. Donc, nous parler de sa famille, de ses enfants, de sa maman, de qu'est-ce que c'est qu'être une personne immigrante. Et ça n'a pas été suffisant pour relancer la marque libérale qui traîne encore, malgré 4 années dans l'opposition, malgré 2 chefs. Il y a des casseroles qui sont accrochées après la patte des libéraux. Puis, comme on dit des fois quand on fait le ménage, je pense que ça va être encore plus laite avant d'être mieux.
Au niveau du premier ministre sortant actuellement, là, on le voit, là, lui aussi, une chance qu'une cote de popularité qui est très grande, parce que je dirais qu'en niveau de campagne électorale, actuellement, il a perdu quand même des points. Là.
Oui, oui, oui. La campagne qui voit l'avion de la coalition Avenir Québec redescendre doucement de la stratosphère. On sait qu'il commençait avec beaucoup, beaucoup de satisfaction et d'affection de la part des Québécois. Est-ce que c'est la campagne ou c'est le fait que la pandémie achève? On ne voit plus le premier ministre puis Christian Dubé à la télé tous les jours. Est-ce que c'est aussi le fait qu'on voit poindre à l'horizon une crise économique et qu'on se dit, mais là, le gouvernement, il nous propose pas de solution autre que son chèque de 500 $ pour faire face à la crise économique? Il y a les entrepreneurs, j'entendais la nouvelle précédente qui parlait de l'arrivée de travailleurs étrangers dans la région, mais les entrepreneurs qui font face à la pénurie de main-d'œuvre, ils ne voient pas chez le premier ministre de solution arriver, surtout quand ils s'entêtent à nous dire que 50 000 $ par année, c'est une bonne chose, la pénurie de main-d'œuvre, les employés aiment ça, mais ce n'est pas 100% de la population qui est un employé, il y a là-dedans des employeurs, il y a des gens, des décideurs dans des entreprises qui se voient pris à la gorge à cause de la pénurie de main-d'œuvre et des salaires qui augmentent et qui trouvent que le premier ministre, bien là-dessus, il ne nous en parle pas. Également, on n'a pas parlé d'éducation beaucoup, on n'a pas parlé non plus de culture, la santé, on n'a pas de solution. On nous dit oui, plus de privé, mais il n'y a personne qui a demandé au premier ministre l'année passée, là, quelle part du budget de la santé, de nos taxes et nos impôts a été consacré à financer le privé pour nous traiter, alors que si on avait pris tout cet argent-là puis on avait bonifié le milieu public, peut-être qu'on aurait eu des meilleurs résultats. Donc, l'étoile de M. Legault qui pâlit un peu, mais certainement pas de manière suffisante pour le mettre en péril.
Et les deux derniers partis, il y en a plusieurs qu'on les compare un peu, Parti québécois, Québec solidaire, je dirais qu'ils ont eu 2 campagnes électorales différents. D'une certaine façon, le Québec solidaire est parti très fort. On a finalement, à un moment donné, frappé un mur. Et le Parti québécois est parti de l'arrière. Il est revenu. Après le face-à-face, on a vu un Paul Saint-Pierre Plamondon s'imposer dans cette campagne électorale-là. Ça a changé.
Choses ont changé, en effet, pour le Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a choisi un ton totalement différent de celui de ses adversaires. On n'a jamais vu Paul Saint-Pierre Plamondon dans les attaques individuelles. On l'a très peu vu dans la remise en question des décisions politiques de la CAQ. On ne l'a pas vu non plus s'opposer à, par exemple, d'autres partis comme les libéraux ou le Parti conservateur. Ce qu'on a vu, c'est ce que tous les autres n'ont pas fait, c'est-à-dire un projet de société. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le Parti québécois parler de l'indépendance comme une solution. On pourra toujours dire, ouais, c'est pas la solution à tout, il va falloir que ça marche, ça se finance pas ce projet-là. On peut tous dire ça. Mais personne depuis, je dirais 95, là, n'avait embrassé la cause indépendantiste comme une cause qui pourrait fédérer tout le monde vers un avenir meilleur, plutôt que de diviser le pays et de déchirer les Québécois entre fédéralistes et souverainistes. La disparition de cette dichotomie-là, fédéraliste-souverainiste, ça donne à M. Saint-Pierre Plamondon la possibilité de parler de son projet sans être toujours l'opposant de quelqu'un, mais avoir une vision différente des solutions. Il a choisi un ton de pédagogie. Peut-être va-t-il réussir à avoir plus qu'un seul député. On sait que Pascal Bérubé va certainement, en tout cas on lui souhaite, être réélu dans Matane. Mais est-ce que des gars comme Alexis Deschênes ou Joël Arsenault aux Îles-de-la-Madeleine pourraient gagner ou conserver des sièges? Ça, je pense que M. Saint-Pierre Plamondon, c'est celui qui se dit, mon Dieu, il m'aurait fallu un mois de plus.
Oui, effectivement. Et pour celle de Gabriel Nadeau-Dubois, on l'a vu qu'il avait bien parti, comme je disais, mais finalement, on est en train de s'essouffler, s'écraser actuellement en fin de campagne.
Mais on s'essouffle plus qu'on s'écrase. Ouais, Gabriel Nadeau-Dubois a fait face à l'imaginaire populaire quand on a parlé de la taxe orange. Et ça, ben, et la bonne idée qu'ils ont eue lors du dernier débat de présenter une calculatrice qui permet aux gens qui ont peur de cette fameuse taxe sur la fortune d'aller faire des calculs puis de voir qu'ils en ressortent fort probablement gagnants. Ça a été une bonne idée. Trop peu de personnes vont faire cet exercice. Pourtant, c'est la première chose qui vous est proposé lorsque vous visitez la page de Québec solidaire. Gabriel Nadeau-Dubois, s'il réussit à faire croître sa députation, donc non seulement garder ses comtés, mais en ajouter quelques-uns, va sortir la tête haute de la campagne. C'est sa première campagne comme futur premier ministre du Québec, hein, parce qu'on sait que le porte-parole de Québec solidaire, ce qu'il fait en campagne électorale, c'est plus seulement être un porte-parole, c'est demander la confiance des Québécois pour devenir un premier ministre. Et il s'est élevé au-dessus de la mêlée à plusieurs occasions. Il nous fait oublier le fait qu'il est souvent associé à la crise étudiante. Et je pense que on va avoir des surprises aussi de ce côté-là. Dans certaines circonscriptions, la lutte est très, très, très chaude.
Et en tout cas, il me reste qu'à te souhaiter une bonne fin de campagne, Madame Doyon. On va se reparler la semaine prochaine quand on aura le nouveau gouvernement en place pour le Québec.
Et oui, puis allez voter.